Effectivement, parmi les séries des années 2000 les plus marquantes produites par les networks américains, 24, créée par Joel Turner et Robert Cochrane en 2001, apparaît comme une œuvre phare, basée sur un concept original, puisque le récit de chaque saison se déroule en 24 heures de temps réel. La série diffusée sur la Fox met en scène donc les aventures héroïques et controversées d'un agent de la Counter-Terrorist Unit, CTU, Jack Bauer, interprété par Kiefer Sutherland. Donc au cours des 24 heures, qui constituent la temporalité de cette série à dominance saisonnière, pour reprendre la terminologie de Vladimir Lifshitz ici présent, le protagoniste doit éviter de multiples complots et attaques terroristes contre les États-Unis d'Amérique. À travers l'omniprésence de dispositifs de télésurveillance qui vont contaminer la forme esthétique singulière de la série et aboutir à l'utilisation récurrente du split screen, 24 met également en abîme son téléspectateur et déploie devant lui un réseau foisonnant d'intrigues. Construit autour du défilement d'une horloge numérique, rappelant l'urgence à agir pour le héros, la temporalité de 24 est ainsi balisée. Une heure de temps de récit correspond à un épisode, étendu vers sa finalité, puisque un tour du cadran de cette horloge numérique signifie la fin inévitable du récit, comme de la saison. Et cette dynamique va être marquée, hein, comme le note Jean-Pierre Eskenazi, par à la fois une prodigieuse accélération et un effort non moins considérable de retardement. Cette construction narrative singulière problématise le rapport de la série au temps qui défile, mais aussi et surtout à la manière de conclure chaque saison. En effet, la fin de saison dans 24 obéit à une logique strictement temporelle et non simplement narrative. Toutefois, elle doit conclure le récit et lui apporter une complétude, tout en offrant une ligne de fuite qui permettra de relancer l'horloge numérique lors de la prochaine aventure du héros. Donc ici, nous souhaitons analyser les dernières séquences des saisons 3, 4, 6 et 8 de la série, qui nous semblent particulièrement emblématiques des stratégies narratives et esthétiques mises en place dans 24, sous le double angle de la conclusion de la saison qui vient de se passer et l'ouverture de la saison à venir. Ces différentes fins de saison, elles représentent systématiquement le visage et ou le corps du héros, et elles mettent en jeu non seulement la suspension du récit et de son protagoniste, mais de manière plus subtile, inscrivent la série dans une dynamique entre le mouvement de l'action et l'immobilité psychologique, lorgnant du côté du mélodramatique qui constitue son véritable identifiant sériel. Enfin, nous verrons comment ces fins dévoilent également des enjeux réflexifs et métafictionnels grâce au dispositif de mise en scène qui intègre le téléspectateur et met en abîme son rapport avec le personnage de la série. Alors bien évidemment, cette introduction, il faudrait que je la nuance immédiatement, puisque si je devais analyser véritablement les plans terminaux des saisons de 24, voici à quoi ressemblerait mon corpus. Ce serait donc cette inscription d'une horloge numérique qui vient clore chaque saison à l'identique de l'horloge qui ouvrait. Cette horloge est le personnage principal de la série. Elle ouvre et ferme chaque saison, elle introduit et clôt chaque récit, elle donne à la série son nom, son caractère épisodique, sa scansion temporelle. Ce n'est qu'à l'intérieur de cette temporalité que s'inscrit le protagoniste Jack Bauer. Dans sa genèse même, la série est avant tout un concept, une histoire qui se déroule en temps réel sur 24 heures, donc en 24 épisodes d'une heure. Jack Bauer, lui, n'est arrivé que dans un second temps. Il est une sorte de corps cobaye soumis à cette expérience temporelle et télévisuelle. Ceci explique sûrement sa labilité, sa capacité à disparaître, voire à mourir tout au long des 9 saisons que compte la série. Cela explique aussi peut-être la variété et l'audace des différentes fins de saison. L'unité saisonnière, exploitée remarquablement dès la fin de la première saison, laisse planer tous les possibles. Si une seule certitude peut accompagner le spectateur à la fin de chaque saison, celle de savoir que Jack Bauer, en sa qualité de héros, ne pourra disparaître ou mourir définitivement, tant que le succès d'audience, en tout cas, sera au rendez-vous, tout autre élément de l'univers fictionnel pourra, lui, se voir annihilé lors de l'apparition finale de l'horloge numérique. La dimension feuilletonnante et saisonnière qui fait la particularité de la série, Hein, ce qui fait sens, pour citer encore Vladimir, c'est cette totalité. Hein, Bauer a 24 heures pour contrecarrer les plans de dangereux terroristes qui menacent la sécurité des États-Unis. Ce n'est plus dans l'unité de l'ensemble sériel que le personnage peut accomplir sa mission, mais dans la continuité des 24 unités sérielles de la saison. La force du concept, son cadre temporel, permet de mettre en évidence sa totalité. Hein, je reprends une des trois catégories du mythos aristotélicien. Et nous connaissons le moment du début et de la fin, dès lors qu'il ne cesse de se rappeler à nous systématiquement à travers cette horloge numérique qui défile. Ainsi, chaque péripétie entre ces deux points, aussi invraisemblable soit-elle, apparaît comme une nécessité de l'intrigue et du récit. D'autant plus que le temps réel va structurer, hein, déployé par la série, structurant sa dimension feuilletonnante, propose une authentique expérience linéaire du temps qui permet à chaque action, chaque dialogue, d'affirmer son caractère nécessaire afin que la conclusion advienne. Cette forme temporelle singulière, hein, fragmentée et large, se décline dans un récit qu'il va alterner donc moment de pause et moment d'accélération. Ainsi, le mouvement de la série vers sa fin inéluctable est soumis à une intense tension entre précipitation et retard, impétuosité et obstruction. Donc le temps de 24, parce qu'il est uniformément linéaire, offre un univers fictionnel où l'urgence de la situation vécue par les personnages s'oppose au piétinement narratif essentiel afin d'obtenir l'étirement du récit. J'emprunte ce concept de piétinement narratif qui, vous allez le voir, est très très important dans la série. Donc ce piétinement narratif, propre à la série, n'est pas sans rappeler le genre du soap opera. Et d'ailleurs, comme le note Jean-Pierre Eskenazi, hein, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça va être après, hein, ce que l'on pourrait croire, dans 24 heures, on parle beaucoup, et d'une manière qui rappelle de façon inattendue le soap opera. Ces discussions impliquent une multiplicité de personnages rassemblés dans des lieux que l'on pourrait appeler milieux d'atermoiement. On y complote, on s'y affronte, on fuit, on nourrit des alliances, on évalue les événements et ceux qui pourraient advenir. Ces milieux d'atermoiement, hein, pour reprendre la formule de Jean-Pierre Eskenazi, qui ont pour fonction de retarder les scènes d'action, parsèment chaque épisode de 24 et construisent une topographie et un rythme particulièrement, un rythme narratif singulier. Ils sont également des lieux propices à, je dirais, l'éclosion d'intrigues affectives et intimes pour les personnages et indubitablement liés à la dimension mélodramatique de 24. Donc c'est là que j'en viens effectivement à ce concept forgé par Tara MacPherson, hein, qui a vu dans 24 une forme de techno-soap. Pour elle, 24, c'est voilà une forme hybride qui fait converger des éléments du soap, de la télé-réalité, du drame de qualité dans une structure formelle qui met l'accent sur l'innovation et le changement technologique. Dans la structure narrative du feuilleton, l'accent est mis sur certains tropes de la masculinité de la nation pour mettre à distance les critiques qui pourraient viser l'utilisation d'une forme sérielle qui renvoie au soap. Même si le contenu renvoyant au soap aide finalement à protéger la série de ses moments les plus réactionnaires. Et au niveau de l'originalité stylistique ou esthétique, la série déploie la technologie, alors du direct au compte à rebours en temps réel jusqu'à l'utilisation du split screen pour éloigner davantage, dit-elle, la forme féminine du feuilleton, réinstallant ainsi une vision très particulière du héros blanc post 11 septembre. Donc Tara MacPherson analyse l'utilisation récurrente de la technologie dans 24 comme un élément viril, hein, qui permet de mettre à distance le caractère trop mélodramatique de la série, en ce qu'il relance, hein, ces éléments technologiques sans cesse l'action. L'utilisation des dispositifs de vidéosurveillance et le split screen fonctionnerait comme un équivalent masculin de la mise en abîme de l'écran télévisuel qui parsème les soaps, hein, puisque souvent dans ces feuilletons, les personnages féminins regardent passivement eux-mêmes des soap opera. Donc dans 24, ces écrans multiples et en abîme détournent la convention pour mettre en avant l'action. Comme d'ailleurs le remarque Monica Michelin, hein, c'est vraiment la technologie qui virilise le soap dans 24, les écrans devenant un mode d'action et non plus seulement de réception. Alors, en contraste avec la simplicité du concept narratif et temporel qui régit la série. 24 est en réalité un entrelacs de paradoxes, hein, entre mouvement et immobilité, série d'aventures et mélodrames, auxquels la figure du héros, Jack Bauer, fait donc écho. Vous avez ici donc une autre citation de Tara MacPherson, hein, qui montre à quel point cette figure de Jack Bauer est assez labile. Il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du cadre législatif, de la conformité sociale, quittant, rejoignant la CTU, utilisant, travaillant comme chef d'équipe ou renégat solitaire. Voilà, il jouit d'une position privilégiée de relais entre différents domaines. Légalité, illégalité, héros tortionnaire, autorité, individualité, public, privé, national, intime. Et à chaque fois, hein, plusieurs modèles de masculinité sont présentés dans la série, à travers ses multiples saisons, mais la position de Bauer est une position privilégiée et très mobile, traversant divers circuits d'échange et de signification. D'autres personnages masculins et féminins restent plus figés, mettant en valeur la mobilité de Bauer, et c'est la fin qui m'intéresse, qui va faire la transition vers le premier extrait, c'est aussi, tout en soulignant les coûts émotionnels d'un tel mouvement labile entre ces différents pôles. Donc, véritable corps cobaye d'un concept temporel et narratif, Jack Bauer offre sa malléabilité physique et psychique jusqu'aux sacrifices les plus douloureux. Alors d'ailleurs, hein, on pourrait faire une série de parallèles, hein, l'unité de temps qui fait l'originalité de 24 évoque peut-être, hein, celle de la tragédie classique qui, prise d'emblée dans l'urgence d'une crise, mène les héros entre intrigue politique et sentimentale vers un funeste destin. L'horloge numérique, hein, serait donc ainsi voilà, un symbole contemporain de ce fatum omniprésent et omnipotent. Et comme le remarque Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer dans son ouvrage consacré à 24, hein, Jack est maudit. Il est destiné à souffrir et à faire souffrir. S'il est un personnage tragique, c'est en grande partie à cause de la torture, car ce que la série montre bien, c'est que la torture est aussi dommageable pour le tortionnaire. La fin de la saison 3 est assez emblématique de cet aspect-là. Cette fin de la saison 3 montre, hein, je dirais, la souffrance, un peu la douleur du guerrier. Alors que la menace, hein, toxique vient d'être, hein, il y a quelques minutes auparavant, vient d'être écartée, Jack Bauer souffre ici de la journée particulièrement traumatisante, hein, qu'il vient de vivre. Je citerai rapidement son addiction à l'héroïne, son infiltration dans un gang de narcotrafiquants, ses meurtres de Nina Myers et de son patron Ryan Chopel, les tortures infligées à son coéquipier Chase Edmunds, fiancé de sa fille Kim, à qui il vient d'amputer tout juste la main. Va donc fondre en larmes dans son véhicule. Ce moment de souffrance psychique, un véritable moment de faiblesse exceptionnel dans la série, laisse éclater au grand jour, hein, cette douleur du guerrier. Donc, débuté par l'inévitable split screen, dévoilant les dénouements parallèles des intrigues secondaires, vous voyez le président Palmer et le scandale qui l'éclabousse, l'arrestation de Tony Almeida et sa relation avec Michel Dessler, l'opération de la main de Chase Edmunds, la séquence va se focaliser sur Jack qui, d'un pas rapide, se dirige vers son véhicule. Alors qu'il y prend place et que la musique épique diminue progressivement, l'action se suspend. La voiture, objet si important dans 24, en ce qu'elle est un véritable adjuvant du héros, se transforme temporairement en un lieu d'isolement et d'introspection, un milieu d'atermoiement, pourrait-on dire, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Eskenazi. Elle devient une sorte de sas de décompression permettant la catharsis. Nous sommes dans les deux dernières minutes de la saison, et 24 nous propose un dernier étirement narratif où la fragilité psychologique de Jack Bauer culmine dans cette crise de sanglots assez impromptue. Se remémorant l'ensemble des traumatismes endurés tout au long de la saison, Jack transforme son visage au trait souvent si dur en spectacle douloureusement inédit. Observé dans un premier temps depuis l'extérieur du véhicule par un téléobjectif qui s'approche progressivement de son visage larmoyant, il va être ensuite saisi depuis le siège arrière, puis le siège passager. Et ainsi, on peut dire que Jack est paradoxalement mis à distance. Il semble, par l'utilisation du téléobjectif pourtant très inquisiteur, hein, jusqu'à la limite du très gros plan, il semble un petit peu mis à distance, et notamment, j'en prendrai pour preuve le changement d'axe de prise de vue, hein, si vous avez noté, c'est lorsque la larme coule. Hein, comme si le spectateur était effrayé presque par cette image de la larme qui coulait. Et finalement, nous basculons à l'arrière, derrière son épaule, un peu en retrait. Et si nous restons encore dans le véhicule, par la suite, à la suite de ce plan, hein, désormais sur le siège passager, au plan suivant, nous avons le visage triste de Jack de profil et le cadre qui laisse entrepercevoir sur sa droite une ouverture du champ. Cette ouverture anticipe, hein, de quelques secondes, le véritable salut qui va s'offrir à Jack Bauer et la fin d'une longue minute d'angoisse où l'action était en suspens, puisqu'un message surgit de son talkie-walkie, l'invite à agir. « On a besoin de toi », dit la voix. Dès lors, l'action est relancée. C'est bien l'objet technologique qui met à distance ce moment mélodramatique. La crise de larmes s'estompe progressivement, et en nous jetant un dernier regard caméra furtif, Jack Bauer fait rugir le moteur de son véhicule pour partir en trombe vers la suite de ses aventures. Ce dernier plan clôt la séquence du point de vue exact où elle avait commencé, comme si ses larmes finalement incongrues se retrouvaient annulées. Dès que la voiture a disparu du champ, hein, l'horloge peut reprendre le pouvoir et nous quittons bouleversés l'univers fictionnel. Maintenant, la saison 6, vous allez voir comment se reconfigurent tous ces éléments-là de suspension, d'action, d'immobilité. Tout au long de la saison, hein, les événements traumatiques vont s'enchaîner pour Jack, et vous en avez une trace ici. Alors là aussi, je vais citer, hein, le meurtre de son ami et coéquipier Curtis Manning, celle de Milo Pressman, celle de son frère et de son père, la torture d'Audrey Raines par les agents secrets chinois qui la laissent à la fin totalement catatonique. Cette nouvelle perte tragique d'un être cher rejoue évidemment le traumatisme final de la saison 1. Une nouvelle fois, les intrigues politiques de 24 détruisent toute possibilité de vie intime et affective pour le héros tragique. Face à l'état de sa bien-aimée, définitivement mutique et immobile, Jack est pris lui-même entre volonté d'action et moment de pause. Son corps semble ici hésiter entre accélération et immobilité. Après un long moment assis, immobile auprès d'Audrey, il sort en trombe de la chambre, mais se fiche par deux fois dans le couloir, face puis dos à James Heller, le père d'Audrey. Comme le note Jean-Pierre Eskenazi, hein, à propos de la mise en scène de 24, chaque mouvement de personnage semble une petite déflagration à laquelle la caméra cherche à s'adapter. Il s'agit plutôt d'une fuite en avant, filmée par un observateur incorporé à l'univers fictionnel. Les scènes d'atermoiement, bien qu'elles ne contiennent aucun avancement scénaristique, et en ce sens sursoient à la poursuite de l'action, demeurent marquées par la précipitation et l'agitation. L'ensemble donne l'impression d'un tourbillon dont on ne sait s'il est produit par les personnages ou s'il les conduit malgré leur volonté. Sortant de la demeure, arme à la main, Jack Bauer alterne encore rapidité et immobilité. Hein, en témoigne sa façon, je trouve, presque délicate de refermer la porte derrière lui. Son pas se fait ensuite plus rapide et décidé. Mais comme pour annuler la vitesse de ce déplacement, vous avez remarqué que la caméra, par un travelling et un zoom combiné, laisse irrémédiablement Jack figé au centre de l'image, sans échappatoire possible. Le héros tragique est également cerné par les nombreux éléments qui composent le cadre, la porte-fenêtre, les palmiers, la barrière. Arrivé au bord de l'océan, Jack n'a plus de choix que de se figer, son arme d'ailleurs toujours à la main. Un troublant raccord regard va venir alors briser un petit peu l'unité visuelle de la séquence, en ce que nous voyons furtivement à travers les yeux de Jack. Nous basculons tout à coup dans son intériorité. Le raccord regard et le mouvement associé à l'image semblent mettre en mouvement même la pensée de Jack Bauer, toujours lui immobile. Que représentent ces vagues pour lui ? La force d'un fatum contre lequel la lutte est impossible, une échappatoire face à l'accumulation de malheurs qui régissent sa vie, ou bien le mouvement incessant d'une vie sérielle prise éternellement entre action et suspens. La musique mélancolique à base de piano qui avait envahi l'espace sonore depuis le début laisse alors progressivement sa place au bruit des vagues. En revenant au gros plan de Jack, dernier plan de la saison, une note sombre de piano retentit comme un glas. Le cadre resserre sur son visage hagard, tandis que l'image, alors que nous sommes pourtant au petit matin, s'assombrit en une lenteur toute funeste. Ce regard vide de Jack, qui disparaît petit à petit, laisse sa place à l'horloge. Mais les secondes qui devraient défiler avec leur son si caractéristique laissent place au bruit suspendu des vagues. L'engloutissement au noir du protagoniste résonne d'une mélancolie profonde et bouleversante, d'autant plus que la tonalité sonore disparue est généralement associée dans la série aux morts tragiques de personnages. On reconfigure encore avec la saison 4, vous allez voir, qui est, elle, est à l'opposé, puisque nous avons une luminosité, j'allais dire, totalement différente qui va se produire. Donc après une dernière discussion avec le président Palmer, Jack, qui a dû faire croire à sa mort pour échapper au service secret chinois, s'éloigne dans un décor hautement symbolique, où le soleil du jour nouveau et les lignes ferroviaires figurent les lignes de fuite d'un récit à venir. Passant abruptement d'un espace sombre vers un extérieur ensoleillé, Jack Bauer alterne comme toujours moments d'accélération et de lenteur. Dès le seuil de ce nouvel espace, le protagoniste ralentit, puis reprend sa marche, filmé en gros plan et en caméra portée. L'axe de prise de vue change alors, et nous retrouvons Jack figeant sa marche pour mettre ses lunettes de soleil. Vu à travers un téléobjectif en plan rapproché épaule, trois quarts d'eau, le protagoniste tourne alors brutalement la tête, comme essayant de débusquer la présence d'un observateur menaçant. Basculant d'un bord à l'autre du cadre, Jack est pris entre passé menaçant et promesse d'un avenir grâce à sa mort symbolique. Après ce moment d'hésitation, le gros plan en caméra portée du plan précédent ressurgit pour clore le dernier piétinement narratif de la saison. Dans le plan suivant, le protagoniste apparaît de dos, filmé en plan d'ensemble, depuis un téléobjectif. Il s'éloigne vers l'horizon en suivant les interminables lignes ferroviaires. Avec ce plan à distance du héros surligné par le zoom arrière et la musique héroïque qui rythme d'ailleurs toute la séquence, le caractère cinématographique de la conclusion de cette saison semble entériné, tel un cow-boy solitaire de western, Jack, le devoir accompli jusqu'au sacrifice symbolique de sa vie, peut s'en aller et nous quitter. Mais il s'agissait en fait de l'avant-dernier plan, car un nouveau changement d'axe de prise de vue décide de faire fusionner temporairement le corps de Jack avec la clarté aveuglante du petit matin, transformant finalement le piétinement narratif en piétinement figuratif. Et la marche ininterrompue de Jack perd alors en profondeur pour devenir plus latérale. Les rails qui soulignaient la profondeur du champ et les possibles narratifs semblent même devenir un nouvel obstacle à l'avancée du personnage. Ce dernier n'aura d'ailleurs pas le temps de sortir du cadre avant l'apparition de la fatidique horloge numérique. Le mouvement vers l'avant du héros ne cesse d'être remis en perspective jusque dans le retour du compteur final qui accomplit une nouvelle révolution. La fin de la saison 8, hein, dernière partie, il me reste 3 minutes, la fin de la saison 8 synthétise par un dispositif réflexif et métafictionnel caractéristique des fins de séries contemporaines, hein, comme l'analyse Jason Mitchell par exemple dans son ouvrage, l'ensemble des configurations possibles des fins de 24. Alors nous avons essayé de montrer un petit peu la mise en abîme à travers nos analyses précédentes, là le dispositif de mise en scène va la révéler, j'allais dire, au grand jour. 2 minutes d'extrait.
When you first came to CTU, I never thought it was going to be you that was going to come my back all those years. And I know that everything that you did today was to try and protect me. I know that.
Yeah.
et donc l'horloge revient en arrière. Donc, tout d'abord, on retrouve les composantes, j'allais dire, essentielles de la reprise d'éléments de la saison. Le corps, le visage ensanglanté, le corps abîmé de Jack Bauer porte les stigmates d'une journée qui a culminé dans une violente vengeance personnelle du héros envers les responsables de l'assassinat de la femme qu'il aimait, Renée Walker. Mettant de côté le devoir, Jack s'est jeté à corps perdu dans une dernière péripétie de la série où l'intime et l'affectif ont pris le pas ont pris les commandes dans une logique mélodramatique violente. Rappelant les fins des saisons 1 et 6, ce series finale ajoute également par l'intermédiaire des écrans de surveillance, cette perfection métatextuelle que remarque Monica Michelin, ce sont les adieux de Jack à Chloé et simultanément aux spectateurs qui, pendant ces 8 saisons, ont littéralement veillé sur lui. « Thank you for watching my back », lui nous dit-il. L'ordre de Chloé d'éteindre la caméra et de rediriger le satellite qui traque Jack marque une fin absolument performative et réflexive de la série qui s'éteint et se referme ainsi alors que Jack fuit hors cadre pour la dernière fois. Par le dispositif écranique et technologique, la caméra et le téléphone, qui troublent les repères du proche et du lointain, cet ultime dialogue émouvant entre Chloé et Jack, sous l'œil de spectateurs masculins passifs, met au jour par le biais de la métafiction la dimension mélodramatique de la série, tout en la mettant à distance. Cette dernière conversation réutilise puis reconfigure l'inévitable split screen, signifiant tout à la fois le lien qui unit le téléspectateur à son personnage et anticipe la rupture définitive à venir. Après avoir demandé à son collaborateur de rappeler le drone qui surveille Jack, Chloé referme cette scène d'atermoiement. « Tout ceci n'a jamais eu lieu », dit-elle. Jack reprend alors sa route, mais au bout de quelques pas, toujours, il se fige, et nous assistons, et permet... il se fiche pour une dernière fois, le regard caméra final transforme définitivement le personnage en héros écranique et permet d'orchestrer sa disparition définitive. Alors que Jack, dans un dernier mouvement, disparaît en même temps que l'image, nous assistons au renversement temporel inédit de l'horloge numérique qui, détraquée, fonctionne à rebours, et alors qu'elle devrait indiquer 4 heures, normalement, se fige sur 0. Qui était en même temps le début de la saison 1, donc un retour à l'origine qui symbolise ici la fin de la série. En conclusion, ces différentes fins de saison jalonnant la série 24 dévoilent admirablement les mécanismes narratifs et esthétiques au cœur de cette œuvre sérielle. Entre logique d'action et d'aventure, où le corps viril du héros masculin est pris dans l'accélération permanente, et logique psychologique qui suspend le mouvement des corps au profit du bouleversement mélodramatique des âmes, 24 dévoile toute l'ambiguïté de son concept temporel et narratif. Série à dominance saisonnière, 24 déploie dans ses fins de saison un éventail de configurations possibles pour compléter les récits et les ouvrir, tout en intégrant à la mise en scène le rapport des téléspectateurs à la série et au héros. Jack Bauer, corps cobaye d'une expérience télévisuelle inédite, offre en spectacle sa souffrance psychique et physique et s'offre lui-même, par les paradoxes de l'immobilité et de l'action, comme objet télévisuel insaisissable en perpétuel suspens. Merci.